Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Monsieur le professeur, je vous dis merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Clap, l'émission du cinéma qui s'écoute. Aujourd'hui, on va parler des personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on m'a dit de dire, c'est le bon terme. Et on va parler de ça avec Pierre, avec Lorelai et avec Marion qui viennent nous présenter deux projets documentaires. Voilà, ça c'était ma présentation. Et je suis aussi accompagnée de Hugo qui va animer cette émission avec moi. Bonjour Hugo.
Bonjour Boubou.
Voilà, je pense qu'on peut peut-être déjà commencer par une petite présentation de tout le monde. Marion, tu veux commencer ?
Moi je m'appelle Marion du coup et je me prépare à passer des concours d'école d'éduc et je dirige des séjours adaptés pour des personnes en situation de handicap mental depuis 4 ans.
Ok, voilà. Pierre ?
Bonjour Clap.
Bonjour.
Moi c'est Pierre et j'ai réalisé cet été un documentaire sur un séjour adapté sur lequel travaille Marion. Donc je suis là pour parler de ça avec vous, avec Lorelai.
Et bonjour
Lorelai.
Moi c'est Lorelai. J'ai suivi des personnes en situation de handicap, des adolescents, dans un institut, dans une ferme thérapeutique l'année dernière. Donc j'ai réalisé un long métrage et je suis en formation de réalisation à l'ESSAV.
Ok. Oui, toi aussi Pierre, t'es à l'ESSAV.
Ouais, exactement. Okay. Je suis en réalisation aussi à l'ESSAV.
Ok. Et du coup, pour que tout le monde situe un peu, le film de Marion et de Pierre sur lequel vous avez bossé s'appelle Nous. Comme ça, après, on sait de quoi on parle. Et le film de Lorelai s'appelle Passerelle.
La Passerelle, pardon.
Ouais. Et du coup, on va commencer par parler peut-être de nous. Comment ça se passe l'idée du projet, ça naît comment? Parce que du coup, c'est un peu particulier que quelqu'un qui est en formation de réalisation travaille à la base ou est l'idée à la base avec quelqu'un qui est en formation d'éducateur. Enfin, il y a une volonté de parler de... Enfin, une volonté commune, quoi, de parler de ce projet-là. Comment ça se passe au début ?
Ben, ça a commencé il y a 2 ans, en fait, même avant, ça faisait un moment que Marion me parlait beaucoup de son expérience de séjour adapté. Et il y a 2 ans, elle est revenue d'un séjour avec quelques rushs, et on les a visionnés ensemble, et là, ça nous a paru évident qu'il fallait en écrire un film à partir de ça, qui avait une matière hyper intéressante autour de la rencontre. Donc, on a commencé à élaborer le truc. Et ça nous a permis, au bout d'un an de travail, de partir sur un séjour pour faire un pilote, donc l'an dernier. Moi, ça m'a aussi permis de vivre l'expérience en tant qu'animateur, puisque je connaissais pas du tout le milieu des séjours adaptés, j'étais pas vraiment familier avec le handicap. Mmh. Donc c'était une espèce de découverte en immersion, et en même temps de voir quelle pouvait être la place d'un film dans ça, et qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir... de tout ce qu'on avait écrit, en fait, quelle était la réalité du terrain et comment on pouvait mélanger ces deux trucs-là. Et à partir de là, ça a permis de relancer encore un an de travail et d'écriture. Et ça a donné, du coup, un tournage cet été du film Nous, qui est maintenant en montage.
Ok, d'accord. Et pour un peu de contexte, c'est quoi... qu'est-ce qu'on appelle séjour adapté, c'est-à-dire ?
En fait, c'est des vacances qui sont organisées pour des personnes, du coup, qui souffrent de handicap mental ou psychiques, qui vivent en institution, en ESAT ou chez leurs parents, dans des foyers adaptés, et qui n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances en famille ou par eux-mêmes, quoi. Mm-hmm. Et voilà, qui s'inscrivent sur des... C'est un peu le principe d'une colo, en fait.
Ouais.
Un peu partout en France, avec une équipe d'animation et voilà, une direction et des activités adaptées, des sorties.
Et cette équipe d'animation, c'est des éducateurs ou pas forcément ?
Non, c'est des gens qui ne sont pas professionnels. Qui sont formés par l'asso qui les embauche et par les directeurs et directrices avec qui ils bossent. Mais c'est aussi le principe, en tout cas, de cette association pour laquelle moi je bosse, qui s'appelle Handi League, qui fait partie de la Ligue de l'enseignement, donc toutes ces valeurs d'éducation populaire et tout ça, qui du coup prend le parti de bosser avec des gens dont c'est pas le métier.
Ok, d'accord. Et... Ouais, du coup, comment ça se passe aussi parce que là, du coup, toi, Pierre, tu rejoins un séjour, du coup, où toi, Marion, t'as l'habitude d'aller. Tu découvres tout l'univers. Quand vous allez faire le film, comment... est-ce que vous pensez le film vachement en amont, du coup, comment ça se passe pour être bien intégré, pour pas gêner, pour pas... est-ce que vous avez été obligé de penser le film d'un point de vue presque pédagogique avant d'arriver sur le séjour?
Bah, du coup, c'est là où c'était toute l'utilité, en fait, d'en faire un l'an dernier aussi, tu vois, de faire un pilote pour pouvoir explorer ces questions-là. Et on s'est progressivement en fait réparti la tâche, en fait, où au début on a commencé à écrire ensemble, Puis après, avec le premier séjour, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est très compliqué de combiner les deux, en fait, animation et réalisation. Mmh. Et qu'en fait, c'était un projet différent que de mêler les deux. Mais le projet du film était en fait de pouvoir raconter tout dans son ensemble. Donc on a décidé de commencer à séparer les deux travaux. Mmh. Et tout l'intérêt, du coup, c'était d'avoir... Que Marion, en fait, en tant que directrice du séjour, pouvait aussi travailler comme un... C'était un... Enfin, je sais pas comment tu qualifierais le truc, mais moi, je pense que c'est un espèce de support à la production, un peu, d'un film, où elle était en contact direct avec l'association. Donc, elle a pu vachement faire avancer le film au niveau du lien avec l'institution. Comment tu présentes un film à cette association, puisqu'elle... Ils peuvent être craintifs, tu vois, à l'idée qu'il y a un film qui se fasse. Donc Marion, elle a pu vachement
surtout
travailler
avec
sur
les gens qu'on a filmés, quoi. Mmh. Parce que c'est des gens qui, pas tous, hein, mais sont certains sous tutelle ou sous curatelle, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément légalement responsables d'eux-mêmes. Et du coup, pour les droits à l'image, c'est vrai que moi, j'ai dû contacter plusieurs fois des éducateurs, même des parents ou des médecins, des gens qui les encadrent, quoi, pour présenter le truc et voilà, leur expliquer la démarche et faire signer une autorisation de droit à l'image. Mmh. Ouais, donc tout ça, ça a été fait et pensé, en tout cas, il y a un an et demi, deux ans, quoi, du coup.
Et comment ils réagissent, du coup, après, les personnes qui profitent de ces jours-là? Comment elles acceptent la caméra? Enfin, est-ce que...
Bah, déjà, ça, c'est un truc qui s'est fait un peu en amont. Moi, j'avais envie de... En fait, j'avais envie de leur parler directement, de les joindre avant. Et du coup, de demander un droit à l'image directement auprès de ces personnes-là, sauf que c'est pas possible parce que c'est des personnes qui sont sous tutelle. Ça, c'est un truc que moi, j'avais du mal à comprendre. Mmh. Pourquoi je peux pas parler directement à quelqu'un que je vais filmer et que je suis obligé de demander l'autorisation à quelqu'un d'autre. Ça me paraissait un peu surréaliste. Mais du coup, en travaillant avec Marion sur ça et avec des gens qui nous ont aidés à la production du film, depuis les SAV ou depuis d'autres institutions, on a pu établir en fait un mélange de demandes légales, tu vois, pour présenter le film, mais aussi de présentation morale, où là, moi, je pouvais vraiment parler directement aux gens en leur disant voilà, moi, si j'ai envie de vous rencontrer, si j'ai envie de faire le film, c'est pour telle ou telle raison. Du coup, il y a déjà eu un travail un peu en amont.
Ouais.
Et après, l'acceptation sur place, c'est faite, je pense, en dehors de la question du handicap. Elle s'est faite autour de la question de la rencontre. Juste, voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas et qu'il a une caméra. Donc, qu'il y a un handicap ou non, c'est la même chose, c'est juste quelqu'un que tu ne connais pas, qui a un objet bizarre dans les mains.
Mm.
Donc, à partir de là, la rencontre, elle s'est faite de façon humaine et sociale, mais je pense vraiment en dehors de la question du handicap.
Est-ce que c'était une volonté, justement, aussi, parce que je crois qu'on avait discuté, enfin, tu avais discuté avec des gens de l'équipe de Clap, parce qu'on fait des recherches sur le terrain avant de faire les émissions, et où tu disais justement que tu avais voulu mettre une espèce de distance avec les gens que tu filmais, mais enfin pas une distance, je sais pas si c'est le bon mot, mais de vraiment filmer ces gens-là comme tu filmerais n'importe quel personnage du documentaire, et que du coup il y a une étape de où les uns et les autres s'apprivoisent et où tu vas pas, enfin tu vas te permettre les mêmes choses, tu vas poser les mêmes questions, tu vas...
Ouais, c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est vu que le film en fait il est autour du temps de la rencontre entre le groupe de personnes en situation de handicap mental et le groupe de jeunes animateurs, vu que c'est une histoire de temps et de rencontre, bah le mot apprivoiser c'est exactement ça. Du coup, j'avais envie de pas mettre de barrière entre ces deux groupes parce qu'il y en a pas et qu'il y a pas à en avoir. En plus, sur ce type de séjour, le but c'est qu'il y en ait pas. Et j'avais envie aussi de questionner ce truc-là, tu vois, est-ce que c'est possible, en fait, qu'il n'y ait pas de barrière? Est-ce que c'est possible de vraiment qu'il y ait un lien réel, authentique, tu vois, entre des gens qui n'ont pas de handicap et qui ne sont pas professionnels par rapport à ça, et des gens qui ont un handicap et qui ne connaissent pas, enfin, qui connaissent pas les gens qu'il y a en face, avec qui ils vont vivre pendant 3 semaines. Du coup, je me suis dit que ouais, la meilleure façon, enfin, en tout cas, la façon dont j'avais envie de le faire, c'était de pas mettre... De barrières au niveau du traitement de la relation, parce que en dehors de la caméra, c'est de toute façon la façon que j'ai trouvé pour être le plus à l'aise, c'était justement de pas me poser vraiment la question, tu vois, du genre, enfin, pas de pas me poser la question du handicap, mais en tout cas de réagir de la même manière dans la rencontre, quoi.
Tu veux dire qu'en fait tu l'es filmé de la même façon?
Ouais, je l'ai filmé de la même façon. Ben, c'est un peu impossible parce que À la fois oui et non, parce que dans tous les cas, il y avait deux personnes différentes, donc je filme jamais une personne de la même manière que j'en filme une autre. Mais donc il y avait quand même le paramètre du handicap, tu vois, qui était pris en compte dans l'approche. Je sais pas, par exemple, je pense qu'il y avait à une personne qui était malvoyante. Je la filmais pas de la même manière qu'une personne qui était voyante. Ou par exemple, je lui parlais à chaque fois en fait quand je la filmais.
D'accord.
Où je lui disais, bah là je suis juste à côté de toi, je vais mettre là, je vais te filmer. Enfin, on avait un dialogue vachement plus établi, mais au final, dans ma position, dans les questions et dans les mouvements, dans la distance physique par rapport à eux, ouais, c'était de la même manière. Ouais.
Je pense que le moment où, même si nos boulots étaient distincts, là où ça a été important, je pense qu'on soit à peu près sur le même objectif, c'est que certains, comme n'importe qui après, mais une journée peuvent être ok, on filme, il n'y a pas de problème, et le lendemain, dans un état qui... Oh, ils t'envoient chier et ça les emmerde. Et donc c'est tout le truc aussi de comment Pierre était là avec eux et comment nous on pouvait leur dire, en gros, s'il y a quelque chose que vous avez envie de nous demander ou quelque chose envie de faire, c'est vers nous qu'il faut venir, c'est pas forcément vers Pierre. Même si en soi, Pierre, en tant que personne, pouvait très bien leur servir un verre d'eau à table et aller pas leur dire non, je suis pas là pour ça, quoi. Mais pour eux aussi, c'est pas évident, parce qu'ils ont l'habitude, en tout cas, que les gens avec qui ils partent soient des gens qui soient là pour eux, quoi.
Ouais, pour les
pour leurs vacances, pour les aider, pour les aider, pour être à leur écoute, à leur dispo un peu tout le temps.
C'est ça qui m'intéressait, justement, dans cette position, parce que du coup, on s'est rendu compte que c'était pas possible d'être animateur et documentariste. Et du coup, j'étais que documentariste, j'étais pas animateur. Et du coup, comme tu disais, Marion, malheureusement, et ça, c'est un truc qui est hyper dur, je trouve, c'est que ces personnes qui ont un handicap mental, elles ont des relations que professionnelles, en fait. Même avec des animateurs, au final, il y a quand même une forme de professionnalisme, malgré nous. Et là, vu que j'étais pas animateur, j'étais pas, comme disait Marion, j'avais pas de responsabilité, par exemple, je sais pas, au niveau du planning, au niveau, tu vois, du dialogue et tout. Du coup, c'était une relation pas professionnelle. Et c'est ça aussi qui a permis une approche... J'avais pas de relation professionnelle ni avec les animateurs, ni avec les vacanciers. Et voilà, du coup, c'est ça qui a aussi permis d'avoir une approche similaire des deux côtés.
Et t'as une idée de ce que serait le film que tu prévois en termes de durée, sur est-ce que tu veux qu'il soit chronologique et qu'il suive l'évolution de ces vacances-là? Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu veux à ce niveau-là?
Ouais, pour la durée, c'est encore... Là, le montage commence à peine. Du coup, pour la durée, c'est encore en suspens, mais je pense qu'il fera autour de 40 minutes, à peu près. Enfin, du coup, je me vise un format 50, comme ça, c'est plus cadré, mais c'est encore hyper libre d'évoluer. Par contre, je pense suivre chronologiquement les vacances, parce que ce qui m'intéressait, c'était comment les deux groupes se sont rencontrés, les deux ensemble, mais aussi à l'intérieur de chaque groupe. Tu vois, est-ce que ça forme un seul groupe? En fait, c'est un peu genre la question du film. Et est-ce que c'est possible que ça forme qu'un seul groupe? Du coup, l'évolution chronologique, ouais, elle est au centre du film.
Mais ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit extrait du coup du film, qui est un moment, je mets un peu de contexte pour ceux qui... parce que là, on n'a pas d'image, mais où tu es seul avec un des messieurs qui profitent du séjour, qui s'appelle, je ne sais pas
comment... Qui s'appelle André.
Qui s'appelle André, et c'est juste André qui va se baigner, et tu l'accompagnes, et vous discutez un petit peu. Voilà, donc on écoute.
Elle est bonne?
Ouais.
T'aimes bien l'eau?
Non, pas pour me sentir trop, tu vois. J'aimerais bien.
Ah ouais, t'aimes pas trop ça?
Avant, quand j'étais petit, quand j'étais à la piscine, ça me faisait rien. Maintenant, j'aime pas trop. J'aime me sentir trop, tu vois.
Pourquoi t'aimes plus?
Hein?
Pourquoi t'aimes plus?
Je sais pas. Parce qu'on dit une salon jage.
T'as l'impression que t'as beaucoup changé?
Hein?
T'as l'impression que t'as beaucoup changé?
Un peu, ouais.
Y'a quoi qui a changé?
mon comportement est devenu plus raisonnable. Parce qu'avant, quand j'étais à l'école, je faisais des conneries. Maintenant, j'en fais plus.
Tu sais pourquoi tu faisais des conneries ?
Parce que j'étais entraîné par les autres. Les autres me disaient, viens, on va faire ça, on va faire ça. Et j'étais entraîné par les autres.
Et maintenant, tu n'es plus entraîné par les autres ?
Non, je ne les écoute plus. Parce qu'après, quand je faisais des conneries, je me faisais gronder.
Du coup, après avoir écouté cet extrait, moi, ça me fait me poser une question. C'est quoi ta place, toi, dans le film, en tant que réalisateur ? Parce que je vois que là, tu poses des questions. Alors peut-être que tu n'avais pas trop le choix aussi pour avoir des réactions, des réponses. Comment tu as pensé ça pendant le tournage ? Et qu'est-ce que tu imagines dans le film ? Comment tu vas exister, toi, dans le film ?
Ça, c'est une question qui est vraiment suspendue pour l'instant. Cet extrait, du coup, c'est un extrait d'un rush qui, en fait, je sais même pas s'il fera partie du film. Du coup, la question de ma place, elle est encore en suspens. Je sais pas si j'ai envie d'y être par la voix ou pas. Parce que dans tout le cas, tu vois, par l'image, j'y suis. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements de caméra, il y a beaucoup de déplacements. Donc, j'y serai dedans de cette manière-là. Mais après, au niveau de la voix, je sais pas encore. D'un côté, ça m'intéresse parce que ça peut être aussi autour de notre rencontre, de ma rencontre avec, par exemple, avec André, là, qu'on entendait. Et du coup, je sais pas encore. C'est vraiment un truc...
Et t'es sur une idée de film choral, du coup, où t'as pas un personnage principal, mais t'en as plusieurs qui sont autant des vacanciers que les animateurs.
Ouais, exactement. L'idée, c'est de suivre l'évolution du séjour autour de 4 ou 5 personnes. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans mon idée, il y a 3 vacanciers et 2 animateurs. Et l'idée, en fait, c'est de suivre leur relation. C'est les personnes en fait avec qui j'ai passé le plus de temps, avec qui moi j'ai eu le plus de relations pendant ces 3 semaines de séjour tournage. Du coup, ouais, j'aimerais bien un film choral en fait, parce que sur les 3 semaines, il y a des groupes qui ont changé. Chaque semaine, t'avais un groupe. Du coup, c'est aussi ça qui m'intéressait, cette espèce de passage qu'il y avait où t'as des gens qui arrivent puis qui partent. C'est hyper intense pendant une semaine, tu crées des relations hyper fortes et d'un coup, ça s'en va. Donc c'est sur cette espèce de montée en puissance de relation, puis d'un coup ça se brise, ça éclate, et il y a encore la fragmentation des deux mondes, le monde des gens qui sont malades et le monde des gens qui sont pas malades. Du coup, j'aimerais bien avoir un truc choral avec ces personnages-là.
Moi, j'ai une question pour Marion aussi, parce que là, bon, on a 2 personnes qui ont réalisé un documentaire avec des personnes en situation de handicap mental et dans des temps assez précis. Ou sur des lieux assez précis, est-ce que c'est un truc qui se fait beaucoup ou pas ? Enfin, est-ce que ça a une utilité, tu vois, le fait de faire un film, est-ce que eux, ça leur apporte quelque chose ? Est-ce que ça peut... C'est quoi l'impact de quelqu'un qui vient avec une caméra aussi et qui filme ça ? Parce que tu dis, Pierre, qu'il y a des relations fortes qui se construisent avec les animateurs, mais je suppose que c'est aussi prévu et réfléchi que ces relations vont se faire et qu'après il faut pas non plus que ce soit un clash et que d'un coup ils se retrouvent tout seuls. Et comment tu gères aussi quelqu'un qui arrive avec une caméra et qui va construire quelque chose avec ces gens-là ?
Il y en avait certains qui voulaient pas, tu vois, qui avaient pas envie d'être filmés pour une X ou X raison. Les autres étaient d'accord et pour certains, moi je pense que ce qui est intéressant, peut-être pas pour tous, mais certains ont pas forcément, se reconnaissent pas forcément quand ils se voient. Se sont jamais vraiment vus sur un écran, parler, bouger, interagir. Tu vois, ils se sont jamais vraiment regardés. Et les moments où, en tout cas, moi, je sais pas si je dirais qu'il y a une utilité, dans le sens, il faut le faire parce que y a le film et bim, il y a des conséquences qui sont extraordinaires derrière.
Oui, non, j'imagine.
Mais, mais je pense que ça peut, autant pour eux, d'avoir une trace simplement de leurs vacances, comme quand toi tu pars avec tes potes et tu fais des photos, tu vois, dans le même esprit, assez simple. Mais en même temps, pour les gens qui bossent avec eux en institution, qui parfois se rendent pas forcément compte que des gens qui sont pas professionnels, qui ont la vingtaine, qui font ça comme un job d'été qui peut paraître un peu con, bah, au final, il se passe des trucs incroyables. Et moi, tous les étés, j'ai des gens qui vivent des premières fois. Les premiers pieds dans l'eau, les premiers pieds nus dans l'herbe, les premiers... des trucs qui paraissent bêtes, tu vois, mais manger du gâteau basque, des trucs un peu idiots. Mais au final, moi, je trouve ça hyper intéressant et hyper riche qu'il y ait une trace de tout ça. Autant pour eux que pour leurs parents, que pour les gens qui bossent avec eux, que... Voilà.
Et du coup, vous allez essayer d'organiser une projection avec eux ou quelque chose ou pas? Ou ça va être compliqué?
Ça peut être compliqué parce que c'est des gens qui viennent d'un petit peu partout dans le grand sud-ouest. Genre, en gros, de Bordeaux à Marseille, dans tout ce qui se passe entre, dans tout ce qui est entre. Mais ça pourrait être chouette que certains le voient, en tout cas.
Le but, c'est de... Moi, en fait, là, je retourne les voir. Je retourne en voir certains. Bah, c'est les personnages là, dont je parlais tout à l'heure pour finir le film avant 2018. Il y a encore, un tout petit tournage de prévu. Mais du coup, le but, c'est de prolonger, bien sûr, la relation. Enfin, la relation, elle est en fait en dehors du film. Du coup, le but, qu'ils soient dans les premiers à voir le film, que soit en se déplaçant, en allant leur montrer, ou d'organiser une projection avec tout le monde ensemble. Ce qui est peut-être plus compliqué d'un point de vue pratique, mais il y aura des projections à Toulouse, en tout cas, d'organiser avec eux, ouais.
Du coup, le film va sortir de son huis clos du centre de vacances.
Ouais.
Il va se passer des choses.
Ouais, bah ouais, parce que ce qui m'intéressait, c'est vraiment ce truc-là. Au début, t'as deux mondes, et puis d'un coup, on les met ensemble pendant 3 semaines, on leur fait vivre un truc de fou, de relations hyper intenses. Puis après, d'une minute à l'autre, il y a encore une fracture qui se fait. Du coup, j'avais envie de retourner filmer cette fracture. Parce que ça me semble être la conclusion. Peut-être une forme de réponse à la question de ce qu'il peut y avoir de groupe, c'est qu'à la fin, il y a quand même la fracture. Et c'est ça, moi, qui me donnait une forme de rage aussi pour faire ce film, c'est qu'il y a quand même cette fracture-là. Du coup, j'ai envie de retourner pour la filmer, déjà pour la découvrir, parce que je sais pas sur le terrain comment elle est, cette fracture. Et du coup, j'aimerais vraiment que le film se termine autour de cette séparation, mais pas vraiment.
Et il y a même plus que deux groupes, parce que s'ils viennent d'un peu partout dans le sud-ouest, ils se revoient pas forcément après, non?
Ouais.
Il y en a certains qui se connaissent, qui se retrouvent parfois en vacances, ou d'autres qui vivent au même endroit et partent au même endroit parce que ça les rassure de partir à plusieurs. Et souvent, les jours de départ, il y a à peu près 300-400 vacanciers sur le même site. Et parfois, c'est assez hallucinant de voir qu'ils se connaissent quasi tous, en fait.
Donc, ouais, c'est... Il y a un côté hallucinant dans ça de... Ça fait vraiment, tu vois, un groupe, genre, eux ensemble et les animateurs ensemble aussi. Enfin, même si on est relié à un moment, il y a quand même une grosse fracture, je trouve, entre les deux. Malheureusement.
Il y a juste un truc que moi, j'aimais bien quand j'ai commencé à faire ça et qu'on m'a présenté un peu la relation qu'on pouvait avoir avec eux. On m'avait dit, au début, tu vas partir avec un trisomique et un aveugle, puis tu vas revenir avec Joseph et Michel, quoi. Tu vois, tu pars avec ce truc-là du...
Ouais.
C'est un aveugle, c'est un trisomique, c'est un autiste, parce que tu fixes ton attention sur le handicap et sur... C'est ça qui te fait flipper.
Mmh.
Et en fait, quand tu vois que t'arrives complètement à gérer, à faire des trucs trop cool et à vivre des vacances normales et trop chouettes avec eux, bah tu reviens et c'est leur prénom et leur pâteau, au final, tu t'en fous, quoi.
Mmh. Et c'est marrant, bah, du coup, attention, je vais faire une transition. Bon, déjà, c'est marrant parce que depuis le début, toutes les problématiques que vous évoquez, Pierre et Marion, et toutes les questions que vous êtes posées, enfin, je pense que je vois Lorelai qui fait hocher la tête depuis le début et qui, en fait, a dû se poser les mêmes questions, les mêmes problématiques. Et sur ce truc, justement, de ce que tu dis, que tu reviens avec Joseph et Michel, je sais plus ce que c'était les prénoms, mais... Ouais, bah voilà. Et bah, je trouve qu'on a bien ça aussi dans ton film, et il y a bien cette volonté-là de... Justement, de dégager des personnages et des. Comme on ferait pour n'importe quel documentaire, comme tu disais, Pierre, et où au final, on arrive, nous, en tant que spectateurs, à retrouver des gens et qu'en fait, à aucun moment, on explique ce qu'ils ont concrètement, mais qu'on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on découvre vraiment des personnalités différentes où leur maladie, elle fait partie de cette personnalité-là, mais en fait, c'est la personnalité que tu montres, quoi. Voilà. Ça, c'était ma transition un peu foireuse. Du coup, peut-être on passe un extrait pour lancer un peu ton film, pour parler un peu de ça. Ou c'est un extrait justement où tu discutes avec son prénom, je l'ai oublié.
D'abord avec Dylan et ensuite avec Léo qui est en train de prendre une douche accompagné par un soignant. Voilà. Donc.
Ok. Et ben on écoute ça.
T'as une passion, toi? Mais c'est le tracteur, hein, tout ce qui est moteur et qui roule.
Et ton rêve, c'est de faire quoi?
D'avoir une petite ferme à moi. Je vais faire tout pour une ferme.
Elle est dans la toilette, Alain.
Elle est là.
C'est la déesse, là, Alain.
Où?
Là, Alain.
Qu'est-ce que fait là, la déesse, hein? C'est ça, la déesse, hein?
Oui, Alain.
Je vais descendre en bas, là. D'accord?
Oui.
Et ça, c'est quoi? C'est
une pièce, Alain. D'accord.
Tu as besoin d'une pièce?
Ah oui, c'est vrai, Alain.
Ton pyjama, tes chaussons...
Ils oublient, tout
le temps. Oui, oui, ben, t'oublies, je te le rappelle. Hein?
C'est bien ta douche?
Oui, il fait un bon bain.
Descends ton truc là comme il faut. Mets tes chaussons.
Tu sais, Roland, il fait un bon bain, Roland.
C'est bien.
Oui, toi aussi, tu prends un bon bain, il y a froid. Pourquoi alors, Roland?
Ça, ça fait du bien.
On va où aller?
Et toi, ça te fait du bien, toi?
Oui, toi aussi, ça te fait du bien, Alain.
C'est à toi que je pose la question.
Oui, oui.
T'es pas obligé de la retourner. Chaque fois qu'on te pose une question, t'es pas obligé de la retourner.
Hein? Oui.
D'accord.
Non, Lorlaï, mais que tu fais dans le bain, toi, Lorlaï? Tu joues les jouets?
Non, je me détends.
Pourquoi, Lorlaï?
Tu ferais mieux de nous expliquer ce que tu fais, toi.
Dans le bain? Je pas pote avec Antel, Lorlaï.
Avec Antel?
Oui.
Allez,
tu aussi le ramènes.
Avant de prendre ça, tu ramènes ta trousse,
la
toilette.
Tu aussi le ramènes, t'as un copain imaginaire, alors là.
Non.
Pourquoi non, alors là?
Tout le monde n'a pas un copain imaginaire, hein?
Oui, alors là.
Toi, oui, mais pas tout le monde, hein?
Voilà. J'aime bien ce passage, j'aime bien cet extrait, il me fait marrer à chaque fois. Mais c'est marrant parce que là, du coup, pour le coup, t'existes vraiment beaucoup. Et c'est très marrant d'ailleurs qu'il t'appelle Lorelai tout le temps, tout le temps. Et c'est, je crois, si je me rappelle bien, dans le film, un des premiers moments où tu commences vraiment à exister, où tu as vraiment un dialogue assez long avec quelqu'un.
C'est vrai, ouais. C'était, c'est une question qu'on se pose énormément au moment du tournage. Est-ce que j'ai ma place dans le futur film qui va exister? Ou est-ce que je dois juste être là pour les filmer dans leur quotidien? Et au tout début du tournage, quand ils me posaient des questions, la plupart des enfants, je répondais pas. Parce que je me disais que je ne faisais pas partie en fait de ce film-là. Et petit à petit, à force de discuter avec les soignants, on m'a dit non mais tu es là en fait, tu fais partie de ce quotidien, tout ça. Donc réponds-leur en fait, tu vas pouvoir créer un lien beaucoup plus simplement en discutant avec eux. Et donc ça s'est fait petit à petit, et on était deux, moi j'étais à la caméra, Simon était au son. Et on est devenus des personnages du film.
Tu résumes un peu le contexte de ton film?
Oui, alors, donc il y a un an de ça, c'est une ferme thérapeutique qui a fait appel à Les Saves pour qu'on aille filmer au tout début un teaser, en fait, pour un projet de spectacle de théâtre et de musique qu'ils faisaient avec des enfants. On a été deux à réaliser, Wally et moi. Ça s'est très bien passé. Donc on a passé un mois avec eux à filmer pendant quelques temps, à venir à la ferme thérapeutique. Et ensuite, en fait, ils m'ont rappelé pour me proposer le projet de les filmer sur le spectacle et sur la ferme. Voilà, d'attester un petit peu de leur travail en tant que soignant à la ferme avec les enfants.
T'es resté combien de temps du coup en tout, là, pour ce film-là que t'as fait toi là? Combien de temps t'es resté, sur combien de temps tu vois cette évolution?
On a fait de février à juin. Sur 4 jours de tournage par semaine à peu près. Enfin, par semaine. 4 jours, entre 4 et 8 jours par mois, en fait, de tournage. Donc, on a eu à peu près...
énormément de rush.
Oui, une quarantaine d'heures à peu près de rush. Donc, il y avait un gros travail tous les soirs où on regardait ensemble avec Simon ce qu'on avait filmé. On se posait beaucoup de questions sur comment on l'avait fait, si on l'avait bien fait, si c'était possible de refaire parfois certaines prises avec les enfants, parce que c'est ça aussi le cinéma au final.
Oui, c'est la question que j'allais te poser, c'est qu'on sait aussi que quand on fait un documentaire, il y a une volonté de prise sur le vif, mais il y a toujours un petit peu de mise en scène. Déjà, la façon dont tu filmes quelqu'un et que tu le transformes en un personnage et tout ça, mais des fois même, ça arrive de vouloir refilmer quelque chose ou de lui dire, bah, tu vas te mettre là et puis tu vas refaire ce que tu viens de faire ou on va mettre en scène quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible avec ces jeunes-là ?
Oui, bah, complètement. Puis de toute façon, il y a pas mal de scènes dans le film qui ont été faites plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois, deux fois, on va dire. C'est-à-dire une première fois, ça s'est passé. Il y a quelque chose d'extraordinaire que moi j'ai vécu, mais je me suis dit, je peux faire, on peut avoir mieux. Et donc, je mettais souvent les soignants en situation en disant, là, il faudrait que, je sais pas, qu'il y ait une chanson, que tel enfant puisse venir chanter cette chanson-là avec toi. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ça. Donc, le soignant se mettait toujours en situation pour que l'enfant puisse venir et accepte de refaire la scène naturellement.
Donc, c'est-à-dire que les soignants t'ont vachement aidé, en fait. C'était énormément. Un peu tes assistants réa, quoi.
Oui, c'est ça. Puis, de toute façon, c'était un projet qui à la base, c'était une envie qu'ils avaient. Donc évidemment, tout le monde était très volontaire sur le tournage pour m'aider à créer le lien avec eux. Mais ça s'est fait très bien.
Ouais. Et il y avait, moi, il y a un moment qui m'a assez marqué et qui rejoint un peu ce que disait Pierre sur la rupture. C'est que justement, c'est des jeunes qui restent jusqu'à leurs 18 ans. Mmh. Et qu'il y a, je ne sais pas comment s'appelle le jeune homme, mais il y a un jeune homme dans le film qui a 18 ans et qui, du coup, ils sont en train de préparer son départ et qui doit partir.
Corentin.
Oui, voilà, c'est ça, Corentin. Et qui a la formation qu'il voulait suivre, qui du coup est très très content. Et t'as des scènes assez marrantes, assez émouvantes, où il dit qu'il pleure alors qu'il a pas une larme, mais parce qu'il dit je suis complètement ému et tout ça. Et il y a ce truc là où il est très content, mais il a pas envie de partir. Enfin, on sent vraiment que c'est un. Enfin, c'est très douloureux pour lui aussi. Il a pas du tout envie de quitter ce repère là. T'as tous les éducs qui pleurent. Enfin, c'est.
C'est une rupture énorme. Ouais. Puis surtout, Corentin, c'est un jeune qui vit à Escala depuis qu'il est tout petit. Donc, c'est quand même assez compliqué de te dire que tu vas quitter ta famille pour partir vers un foyer qui est. C'est un foyer d'accueil médicalisé, une femme, avec beaucoup d'adultes. Donc, on est allé visiter le femme. J'ai même tourné des plans aux femmes que finalement je n'ai pas intégré au film. Et ça fait très bizarre de voir Corentin que. Cet enfant-là qui doit continuer à grandir parmi les enfants, qui passe du côté des grands, quoi, plus ou moins.
Et moi, je veux juste savoir quels sont, du coup, c'est quoi les besoins spécifiques des gens que tu avais là-bas, comme public, en fait, simplement. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces enfants ? Pourquoi ils étaient là ?
Donc, la plupart étaient, souffraient, en fait, de troubles autistiques et d'autres de troubles psychiques, en fait, différents de la psychose. Voilà, donc c'était assez différent à filmer selon si tu es face à un enfant autiste ou un enfant plutôt psychotique. Et le lien, chaque lien est unique, comme tu disais, toi aussi Pierre, c'est pareil pour les adultes, avec les enfants c'était merveilleux d'arriver à trouver la façon dont on allait communiquer avec un enfant en particulier qui peut-être au début ne voulait pas se faire filmer, qui refusait la caméra ou qui faisait le pitre par exemple devant la caméra parce qu'il avait du mal à accepter qu'on le prenne en vidéo. Et à la fin, on réussissait à trouver le lien concret avec lui et à obtenir des choses... Voilà, des cadeaux.
Est-ce qu'il y a un moment où... Enfin, moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu, du coup, ton film et... Enfin, vos films, en fait, à tous les deux. Je crois que si, moi, je me retrouvais à faire ce genre de film, mais je sais pas si c'est le cas pour vous, je me poserais à un moment donné la question de est-ce que c'est voyeur, ce que je fais. Et je crois que c'est un truc... Enfin, moi, je me suis dit, c'est assez courageux, quand même, de faire ça, parce qu'il faut arriver à régler cette question-là. Et je trouve pas du tout que vos films sont voyeurs, mais est-ce qu'il y a un moment où t'as ce truc de... Je viens filmer les gens... pour leur handicap, et en même temps, je veux les filmer comme n'importe qui d'autre, donc où est-ce que tu trouves, tu vois, la cohérence entre ça et...
je pense à deux moments particuliers. Quand tu dis genre voyeurisme, c'est un truc qui est... Enfin, moi, en tout cas, c'est une question que je me pose dans le documentaire en général aussi.
Oui.
À quel moment, en fait, tu décides que tu vas filmer un moment et que, du coup, tu privilégies le film au moment des gens. Est-ce que tu vas faire ça ? Est-ce que tu vas impacter le moment qu'ils sont en train de vivre ? Ça peut être un moment banal, genre une discussion entre deux personnes. Et est-ce que tu te poses la question de « Ok, je vais les filmer, du coup, ça va changer la façon dont ils vont discuter, du coup, je leur enlève une partie de leur intimité. » Ça peut aller d'une discussion jusqu'à une scène de douche, comme on a entendu là tout à l'heure. Est-ce que tu filmes un corps nu ? Est-ce que tu prives quelqu'un de son intimité physique quand tu filmes un corps nu ? Et moi, je me souviens, genre, sur le tournage, il y a eu deux moments... Comme ça, il y a un moment où il y avait une scène de douche aussi, où j'ai filmé, plusieurs fois un mec sous sa douche. Et ça s'est super bien passé parce qu'on en avait parlé un peu avant, mais très naturellement. Et il y a une autre fois où j'avais filmé une scène qui me semblait être très banale, pas du tout d'intimité physique, ni morale, ni quoi que ce soit. Et la personne que j'ai filmée est venue me voir après en larmes en me disant que ça, c'est qu'elle avait très mal vécu ce truc-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un moment où j'avais pas fait la... où je m'étais pas mis la barrière assez proche, tu vois, de...
T'avais pas créé le lien avec cette personne,
ouais, c'est
pour
ça.
Pouvoir entrer dans son intimité.
C'était allé trop vite et j'avais mal jugé, en fait, l'intimité, tu vois. J'étais resté dans une intimité très, très subjective qui est la mienne, qui est, ok, mon intimité, elle est définie par mon physique, par quand je m'exprime. Et là, je la filmais sur un truc très banal qui était une scène de petit déjeuner. Et en fait, c'est pas du tout passé. Du coup, c'est quand tu dis que chaque relation est unique, c'est exactement ça. C'est que chaque perception de l'intimité est unique aussi. Du coup, chaque moment où tu vas priver une personne de son intimité est unique. Donc, il y a la nécessité de
cas par cas, quoi.
Ouais, cas par cas. Puis la nécessité d'une relation authentique et profonde avec quelqu'un de le filmer, elle est encore plus évidente, je trouve, quand tu filmes le handicap, quoi. C'est
mais c'est pour ça que toi, Lorelai, tu m'avais dit que tu avais fait, enfin pas des repérages, mais le fait d'avoir fait un premier film avant, c'est en fait Pierre et toi, vous avez fait la même chose, vous avez d'abord fait un premier film, puis un plus gros film où là vous étiez plus seul et préparé, et vous aviez eu le temps de construire un lien avant pour pouvoir avoir des moments, je suppose, d'intimité qui ne vont pas les déranger parce qu'il y a déjà une relation qui s'est créée, quoi, en fait.
Oui, après moi, cette scène par exemple avec la douche, bon, quand je filme Léo, il est pas nu, il vient de terminer de s'habiller avec Alain. Je reste quand ils sont en train de s'habiller, en fait je suis à l'extérieur et j'attends qu'on ouvre la porte pour m'autoriser à rentrer. Donc j'essayais non plus de pas trop enfreindre cette règle de l'intimité avec eux. On est quand même dans un hôpital avec des adolescents entre 14, entre 12 et 18 ans même. Moi j'arrive, j'ai 24 ans, je suis une jeune fille. Je aller les filmer dans la douche, c'est peut-être pas, tu vois, c'est toujours un peu compliqué sur ces questions-là. Qu'est-ce que tu posais comme question ?
Oui, le fait que le repérage t'aidait à créer une relation avant pour avoir des moments d'intimité pas violents, quoi, pour eux.
Et ce que je voulais dire, c'est que par exemple, tu peux commencer grâce au repérage, en fait, à créer un lien avec des enfants, mais c'est pas sûr qu'ils ne t'autorisent à rentrer dans leur intimité. C'est-à-dire que pour rentrer dans les chambres, ça s'est fait assez tardivement dans le tournage. On n'osait pas, avec Simon, aller les voir dans les chambres avant d'avoir un petit peu discuté avec eux hors caméra, de se rendre compte que ils ont envie de créer le lien avec toi. Et du coup, si tu arrives dans leur chambre avec une caméra, c'est pas si gênant que ça, finalement. Et donc, à partir du moment où ils t'autorisent à le faire, tu vas te permettre de le faire avec un peu plus d'enfants et voir un peu comment ils réagissent.
Et est-ce que c'est pour ça? Parce que moi, j'ai eu l'impression, en voyant le film, qu'il y avait des rendez-vous un peu attendus. Au niveau du spectateur qu'on n'avait pas. J'en ai deux en tête, là. J'ai le départ de Corentin qu'on n'a pas, on a le moment juste avant mais on n'a pas le départ proprement dit, et le spectacle où on a des moments de répétition, on a, je crois, une répétition générale, quelque chose comme ça, à un moment donné, mais on n'a pas le spectacle en tant que tel. Est-ce que c'est dans ce sens-là de pas filmer une scène qui serait trop intime, ou au moins tu te sentirais pas ta place? Enfin, pourquoi t'as fait ça? Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'est... Il me semble qu'il y en a d'autres aussi dans le film, je les ai plus en tête là, mais...
Il y a pas mal de scènes comme ça où en fait on s'est dit que c'était pas nécessaire de les intégrer dans le film, ces scènes-là. Je pense que rien que le départ de Corentin, où il se fait offrir des cadeaux en fait avec les soignants, ça suffit en soi.
Complètement.
De voir l'émotion de ces personnes-là, elle sera peut-être pas la même, enfin... Voilà, le jour où il va partir, il y aura déjà eu tellement d'émotions avant que ce sera peut-être pas aussi fort que ce qu'on a filmé à ce moment-là, qui pour moi était déjà... moi, j'étais derrière ma caméra, je l'ai filmé, ils étaient tous en train de pleurer. Il y avait énormément d'émotions qui se dégageaient de ça. Et j'étais très émue aussi, et je continue à filmer malgré tout. Et puis, une fois que je lâche ma caméra, j'explose aussi un petit peu derrière en me disant, bon, c'est quand même un départ, Corentin, on l'a suivi pendant un an, je le connaissais l'année dernière, et depuis, en un an, il y a eu énormément d'efforts que j'ai vu, moi, qu'il a pu faire, et c'est un enfant qui est extrêmement attachant, un peu violent dans ses termes, parfois, dans ses... dans sa façon d'agir, ou ne pas montrer le spectacle aussi. Ce qu'on me disait, c'était que la volonté de pas montrer le spectacle, c'est parce que on change de point de vue avec la caméra. Moi qui ai une caméra subjective tout au long du film, qui les suit à travers le spectacle, dans la ferme thérapeutique, si je montre le spectacle, on n'est plus du tout dans le... On n'a plus du tout le même point de vue. Et du coup, je pense que le film aurait perdu en fait quelque chose. Et au contraire, on a envie de donner envie aux personnes d'aller voir ce spectacle. Oui, tu vois.
Il y a un autre moment hyper intime pour le coup et hyper bouleversant que tu as filmé. C'est un moment où qu'on va écouter l'extrait là juste après. Où donc c'est le jeune garçon. J'ai oublié tous les prénoms. Je suis désolée.
Je peux le présenter si ouais, tu voilà, veux. Donc Kevin et Jean-Marie. Jean-Marie est un psychologue et Kevin est un jeune homme qui souffre en fait de psychose et ils vont discuter tous les deux en fait de son angoisse des trous noirs et du rapport qu'il y a à la mort. Et voilà, donc c'est un entretien qu'on a filmé et qu'on a voilà, qu'on a filmé avec Simon.
Que okay. Je vous laisse écouter.
Qu'est-ce que c'est un trou noir dans le ciel?
Un trou noir, c'est quelque chose. Je sais pas.
T'as déjà entendu ça, un trou noir?
Ouais. J'ai même vu des images sur l'ordinateur.
Oui, c'est dans le cosmos, c'est ouais. Les astronomes.
Et même sur les formations de journal d'intérêt, ils ont dit qu'il y avait un trou noir au sein de la galaxie.
Ouais. Ça t'a fait penser quoi?
Ça m'a fait peur.
Ouais.
En plus, ça m'a fait bizarre. De penser que... Je crois pas que c'est vrai, je pense pas.
Mais parce que la galaxie, c'est quelque chose de gigantesque. C'est énorme.
Ben ouais, mais s'il arrive, ça me fait peur quand ils ont dit ça, mais je crois pas que c'est vrai, j'ai peur que ça... Je sais pas si c'est vrai. Hein.
Ça peut pas te rassurer de penser ça? De penser que c'est très loin, que c'est dans très longtemps?
Non, ça me rassure pas.
Ça te rassure pas?
Je le sens tous les jours. J'ai encore une peine un peu plus peur, là, parce que je crois que ça approche, il va approcher. Je pense que les trous noirs, il va y avoir des toits qui vont aspirer la Terre là bientôt.
T'as de plus en plus peur?
Que ça y arrive. Comme Jean Brocken.
Et comment tu fais avec cette peur alors? Qui est de plus en plus grande, comment tu fais?
Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, la seule idée que je vais faire, je vais un trou noir, eh bien, je meurs. Il faut que je meure.
Avant que ça arrive?
Oui. J'espère que c'est dans très longtemps comme ça, je ne vais pas le voir, je serai déjà mort.
Mmh. Certainement.
Je préfère mourir que le voir, alors donc il faut que je fasse vite, pour que je meure. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à ça. C'est mort. Mmh. J'arrive plus, je suis compensé à que je suis mort.
Pourtant, on est là tous les deux en train de parler. Ouais. Donc,
je trouve que c'est triste.
Moi, je trouve que c'est triste.
Oui.
Quoi, d'être mort, de parler de la mort?
Pourquoi je parle que je suis mort? Ça te fait de la peine que je dis ça?
Non, ça me fait pas de la peine que tu le dises, non. Ça me ferait de la peine si tu étais mort. Réellement, mais que tu le dises, non, ça me dérange pas, moi. Ça m'étonne. Oui, ça m'étonne. Et ça m'embête que tu puisses pas t'en empêcher, parce que je pense que ça te pèse.
Je crois que je vais faire que lui dire ça tout le temps. J'aimerais bien tout le temps le dire.
Et il se passerait quoi si tu disais ça tout le temps?
Ça peut peut-être arriver.
Et tu voudrais que ça arrive?
Oui.
Tu voudrais mourir?
Oui. Mais je sais pas comment. Ouais, j'aime bien mourir.
T'as envie de mourir?
Ouais.
Tu veux essayer de me dire pourquoi?
Parce que j'ai pas envie d'exister.
Voilà. C'est un extrait assez dur, mais vachement joli aussi. Enfin, moi, je trouve ça assez beau que tu aies réussi à avoir ce moment-là et qu'ils se sentent en confiance. C'est une belle preuve de confiance aussi, quoi, que ce moment puisse exister avec la caméra. Et ce que je trouve assez marrant, parce que c'est pas la seule fois qu'on le voit dans ton film, c'est que j'ai l'impression que ces jeunes-là s'inquiètent vachement des sentiments qu'il projette. C'est-à-dire que là, il lui demande, est-ce que ça te rend triste que je dise que je veux mourir ? Il y a d'autres moments où ils vont t'expliquer, bah moi je marche pour me calmer. Enfin, ils expliquent vachement ce qu'ils font, presque comme pour rassurer les gens, comme s'ils avaient l'habitude, tu vois, qu'on... Enfin, il y a cette espèce d'explication assez permanente où, voilà.
Et en fait, c'est le bienfait, je pense, que font les soignants avec ces enfants-là, c'est d'essayer de les faire accepter du mieux possible à la société, donc... de travailler un peu leur comportement en société et de savoir comprendre qu'est-ce que c'est que la tristesse, qu'est-ce que c'est que la colère, voilà, le verbaliser et l'accepter et voilà. Et je trouve que leur travail est assez merveilleux avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et voilà, est-ce que ça te rend triste d'imaginer qu'un jour je vais mourir, la question est claire, le jour où tu mourras, oui, je serai triste, mais que tu me le dises, ça me... Voilà, c'est tout.
Et c'est quoi du coup maintenant l'avenir de ce film ? C'est un film d'une heure. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Je suppose que déjà ils vont le voir eux. Mais après, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce film ?
Déjà, l'Institut, en fait, va, je pense, va utiliser ce film-là dans pas mal de conférences pour montrer un peu ce qu'ils font à la ferme avec les enfants, pour attester vraiment de leur travail à la ferme. Donc j'espère pour eux que ça va faire un peu bouger les choses voilà, dans le milieu hospitalier. Et puis ensuite, on va essayer de l'envoyer à beaucoup de festivals documentaires. Parce qu'en ce moment, en fait, la question de l'autisme revient pas mal aussi dans l'actualité. Donc on se dit que c'est le meilleur moment pour en faire parler. Et voilà.
Ok. Écoutez, c'est pas mal tout ça. Je pense que c'est le moment de passer à notre chronique, parce qu'on démarre une nouvelle chronique qui un peu a pour but à vous donner des nouvelles idées ou prolonger les sujets. C'est la chronique cinéphilique du Jojo.
Oui, donc le but de cette chronique est de mettre en avant des films phares, selon moi, qui ont traité le sujet de près ou de loin depuis maintenant plus de 100 ans de cinéma. Au milieu de toutes ces expériences de films bourgeonnant autour de cette table, je me trouver ça plutôt intéressant de mettre en avant quelques grands films qui traitent de notre sujet. Alors attention, il peut y avoir des déçus, il y a tellement de beaux films sur ce sujet que 5 minutes qui me sont attribuées dans cette belle émission me sont courtes. C'est pour ça que je vais axer sur quelques films qui m'ont marqué. Pour une fois, je ne vais pas parler ou peu de cinéma indépendant. On va s'attaquer plutôt à des films de l'industrie que je passe mon temps à critiquer, mais qui au moins ont le mérite de faire rêver ou hurler des millions de personnes par film, ce qui honore la place du cinéma là où il doit être, comme un art populaire. Alors pour commencer, il y a beaucoup de pathologies et de causes différentes, comme les accidents, les malformations de naissance, les pathologies psychologiques et mentales, pour autant de diversité de films, et j'en ai choisi deux qui datent pas d'hier pour faire le contrepoids avec tous ces nouveaux projets tout nouveaux qui peuplent l'émission. Et je vous conseille de consulter un dossier passionnant sur le site internet de Andy Marseille, faisant un classement par pathologie et époque dans l'histoire du cinéma. Alors, 1936, le cinéma rentre dans l'âge adulte, mais a tout approuvé. Il n'a qu'une trentaine d'années et Hollywood est à bloc. Un peu raide pour commencer sur comment la société et donc l'industrie du cinéma pensait la place du handicap à l'époque, mais on va voir que les commandes que peuvent faire Hollywood à des réalisateurs sur des thèmes commercialement attractifs peuvent être détournées, et c'est le cas du film culte de Todd Browning, sorti en 1936, qui s'appelle Freaks, la monstrueuse parade. Alors on va plutôt parler du dispositif du film, je pense que c'est un film à découvrir aussi par ce biais-là. Le terme de monstrueux choque lorsqu'on parle de pathologie et de handicap, et à juste titre, et c'était pourtant courant il n'y a pas si longtemps. Et ce qui a été monstrueux pour ce film, c'est bien comment ce film s'est tourné. Le projet a été initié par un puissant producteur américain, Irvin Thalberg de la MGM, en embauchant Todd Browning pour faire ce film. Il lui annonce d'emblée « Je veux que ce soit plus terrifiant que Dracula ». Voilà l'image des handicapés à cette époque aux États-Unis. Durant le tournage, des pétitions circulent dans les studios pour interdire l'accès aux acteurs et aux actrices à la cantine, pourtant venues des quatre coins du monde de différents cirques à phénomène de foire. Mais la performance des comédiens et des comédiennes a été telle que Todd Browning a détourné la commande du film d'horreur pour en faire un film d'amour et de tolérance au milieu d'une histoire de mœurs, de mariage et de trahison bien commune aux thèmes hollywoodiens.
Et le public a encensé le film jusqu'à aujourd'hui, le classer instantanément comme un chef-d'œuvre. Malgré la monstruosité des producteurs américains, Freaks reste une ode à la tolérance et à la différence. Voilà, alors. Et
j'ai envie d'applaudir, c'est bon.
Et le deuxième et dernier film, et oui, c'était rapide, c'est un film laissant de côté le handicap physique pour parler au moment. Pour parler de comment notre société gère les pathologies psychiatriques et comment les artistes du 7e art peuvent s'en emparer pour parler du monde et de ses dysfonctionnements. Et c'est un film de Milos Forman sorti en 1975, connu, pas mal connu de tous, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et on va traiter plus l'histoire cette fois que le dispositif. Ce film est tellement complet et fonctionne comme un miroir. Où est la limite entre fou et non fou? Est-ce que ce n'est pas finalement qu'une question de limite, de frontières? Dans ce film, c'est clairement l'autoritarisme et les frontières qui sont pointées du doigt. Donc McMurphy, joué par Jack Nicholson, incarne un homme de 38 ans qui se fait passer pour fou dans un asile psychiatrique pour pas aller en prison alors qu'il a été inculpé pour viol. Très vite, le nouveau, par sa nature pleine de vie et libertaire, ouvre aux patients soumis des horizons sur une autre expérience possible et s'oppose aux méthodes contestables de l'infirmière en chef, Madame Ratched, qui régente son service de façon autoritaire. Alors le propos du réalisateur est clair et la métaphore elle est limpide. La société jouée par l'hôpital psychiatrique veut normaliser l'individu joué par le patient en contrôlant, voire en supprimant ses désirs à l'aide de règles aliénantes, de tranquillisants qui mettent sous dépendance, de pratiques psychologiques rabaissantes qui non seulement portent atteinte à la liberté, mais altèrent à terme gravement la santé mentale. Bref, au-delà de l'institution psychiatrique, c'est la répression sociale et les libertés individuelles qui sont dénoncées. Et pour moi, la grosse question à se poser sur ce film, quand même, et ça c'est ma critique personnelle, malgré la puissance militante du film, c'est la raison de l'internement de McMurphy, qui est un viol, et la raison du traitement qu'il subit à la fin, qui est une bonne grosse agression envers une femme. Vous en faites pas, j'ai fait exprès de rester flou pour pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Quoi qu'il en soit, faire de McMurphy un héros libertaire alors qu'il a commis un viol et faire incarner la société autoritaire par une femme névrosée horriblement rigide, laisse un vieux goût amer dans la bouche, surtout qu'on s'attache et qu'on s'identifie à bloc au personnage, comme dans tous les films où Jack Nicholson a le rôle. Le machisme et le sexisme ambiant de l'époque et d'aujourd'hui, tant chez les militants que chez les artistes, pose la question d'un autre handicap de la société, celle d'une mentalité archaïque et étroite concernant la place de la femme dans la société. Alors, si j'ai deux minutes encore, si j'envoie un listing de films réalisés sur ce thème, je vous conseille évidemment Breaking the Wave de Lars von Trier, Elephant Man de David Lynch, Les Enfants du Silence de Rhonda Hayne, Altra de Kerwin et Delépine, Deux Beaux Lendemains de Hatton et Goyan, Jour après jour de Jean-Daniel Paulet, Sam, je suis Sam de Jesse Nelson, Le Docteur Popol de Claude Chabrol, allez, allons-y. Et évidemment, tous les films du FIF, Festival International du Film sur le Handicap, qui a lieu à Cannes depuis 2016. Il était temps qu'il y ait un festival sur ce thème, preuve que le cinéma, autant que le monde, apprend encore à marcher comme il peut.
Mais bravo, Jojo. Putain, je suis trop fière, cette chronique est super géniale. Ben voilà, ben merci Jojo, je pense qu'on va pas trop avoir le temps de discuter de ta chronique, mais ça se fera hors antenne, c'est sûr. Et on va du coup achever cette émission avec Beluga, qui est une pièce radiophonique en plusieurs épisodes, qui est venue présenter Marie le mois dernier sur un voyage en Biélorussie. On suit donc les aventures de Ulysse, une jeune voyageuse en Biélorussie, et voici l'épisode 2.
C'était tout de même fou d'être tout le temps à ce point décalé. Comme une petite erreur de tempo, dès le départ, qui l'avait pour longtemps séparé du reste du groupe. Ulysse n'agissait pourtant pas différemment, mais toujours en retard, en avance, trop rapide ou trop lente, souvent trop bruyante. À son réveil, dans le train toujours, elle avait été reprise, comme une vague vouchahute, par sa différence. Elle ne comprenait pas, par exemple, pourquoi l'hôtesse l'avait réveillée une heure avant son arrêt à Minsk. Peut-être parce que dans ces trains, il faut montrer qu'on se maintient propre, même après les 14 heures de trajet depuis Lviv. Alors, même si les toilettes vous salissent plus qu'elles ne vous lavent, tout le monde y passe, avec bien en main, visible, sa petite serviette éponge fournie par le service ferroviaire. Elle s'était endormie avant d'avoir appréhendé l'impression que lui avait laissé le passage de la frontière entre Ukraine et Bélarus. Si elle n'avait finalement pas été fouillée, malgré toutes les histoires qu'elle tenait de ses amis frontaliers, elle pensait bien que c'était grâce à l'appui, d'une part de ses deux nouvelles amies Babouchka, mais aussi grâce à l'air que l'on veut aider ou aimer qu'elle savait dessiner sur son visage. Alors cette frontière, attendue comme agressive et morose, elle n'en avait fait, selon elle, qu'une bouchée. Mais maintenant, c'était un réveil brumeux. Cette nuit, elle avait eu l'impression qu'on croquait dans sa jambe droite, comme son mollet dépassait dessous le drap, depuis la hauteur de sa banquette. Bel appât pour le premier affamé venu. L'hôtesse lui rend son billet de train, qu'elle a gardé avec elle pendant 14 heures. Ulysse regarde par la fenêtre ce qu'elle veut être les dernières forêts primaires d'Europe, comme elle a lu dans un guide que c'est ici qu'on les garde jalousement. Même s'il y a 30 ans, le souffle de Tchernobyl rampait partout. Sur la même page, elle a lu qu'il ne fallait pas en parler, comme c'est un traumatisme national. Ulysse se demande comment on guérit d'un traumatisme sans en parler. Mais ici, elle n'est plus si sûre de ce qui est possible ou non, de ce qu'elle pouvait avoir cru vrai ou faux, et qui n'a plus aucune assise dans cette aventure. Par la fenêtre, du bois coupé, du bois debout, de petits tiriers et des marécages qui se glissent partout, entre eux tous. Le soleil joue à suivre le train. Les yeux d'Ulysse naviguent entre les fenêtres qui l'entourent. Celles-ci délimitent son espace dans le train, mais aussi son regard sur l'extérieur. Ulysse sent qu'elle approche de Beluga qui l'attend. Elle se gorge de détails qu'elle veut graver en elle déjà pour ne jamais oublier d'être arrivée une première fois dans la dernière dictature d'Europe. Il n'y a plus de journal indépendant depuis 2006 et la radio et la télévision sont contrôlées par l'État, avait-elle lu sur le site Bibliops. Alors il ne fallait pas se mentir, et il s'était un peu déçu. À la sortie du souterrain de la gare, elle avait trouvé un McDonald's, et la télé de la cafétéria dans laquelle elle s'était réfugiée lui braillait dessus sans discontinuer toute la pop commerciale des dernières années. Parfois c'était une chanson dont elle ne comprenait pas la langue, qu'elle devinait russe, mais dont les danseuses poupées, mannequins, dénudées, s'alignaient parfaitement sur les clips précédents. Elle avait aussi trouvé un coca qu'elle sirotait maintenant. Elle venait d'arriver et ne voulait déjà plus bouger. Ok, elle n'avait pas quitté le vieux continent, mais elle s'attendait quand même à quelque chose de plus drastique pour changement. Stupide Ulysse. Si, quand même, il fallait dire que les prix l'avaient déstabilisée. Elle avait payé son coca 16 500 roubles biélorusses, après avoir vérifié du regard que l'expresso coûtait quant à lui 16 000. Elle hésitait, prendre un taxi et se faire avoir comme toujours à l'arrivée, ou bien se perdre une première fois dans les transports publics, mais découvrir la ville déjà, auprès de sa population. Bref, comment ça en être, quoi. Par la fenêtre du taxi, elle regarde les gens. Qu'est-ce que ça fait, ce chauffeur de bus, d'être interdit de frapper des mains dans la rue? Est-ce qu'il y pense? Est-ce que les gens pensent au fait qu'ils vivent dans un pays où l'opposition politique est un crime? Dans l'ensemble, tous les bâtiments en bordure des grandes allées sont carrés. Comme elle en voulait au chauffeur de taxi de probablement profiter de son statut de touriste affiché, car non dissimulable qu'elle portait aussi lourd que son sac à dos, elle décida de mémoriser les traits de cet homme. Elle n'oublierait pas les plis de son crâne, les cheveux épars, rasés, la nuque qui dit non et ne bouge plus, les mains serrées blanches sur le volant.
Et voilà, c'était Beluga et ça sonne la fin de notre émission. Clap. On tient à remercier nos intervenants qui ont accepté de répondre à nos questions et de parler de leur expérience de film. Et Raphaël à la technique avec tous ses casques.